Il est 19h et vous êtes bien sur Radio Campus Bordeaux 88.1.
Une émission proposée par Laura Cassouf et Camille Dufour.
Un homme ne peut pas se retrouver seul avec une femme, ou une femme qui viendrait seule acheter ses livres ici, elle ne voudra pas se retrouver seule avec un homme. Surtout par respect déjà si elle est mariée, je ne pense pas que son mari il accepterait ce genre de choses. Et niveau religion, on n'a pas le droit de rester tout seul avec une femme, isolé dans la même pièce.
À Bordeaux, dans le quartier Saint-Michel, Jean-Baptiste Nichelon, gérant d'une épicerie, a décidé d'instaurer des horaires non mixtes dans son commerce, mettant en avant sa religion. Il a vite été rappelé à l'ordre par des musulmans de toutes parts, dont l'imam de Bordeaux, Tarek Oublou. Bien évidemment, toute la classe politique y a aussi mis son grain de sel. Et en parlant de cuisine, c'est le site de recettes Marmiton qui, en souhaitant un bon ramadan à tous, s'est aussi attiré les foudres des xénophobes qui s'en sont donnés à cœur joie, défendant notre pays, je cite, catholique. Enfin, tout le monde s'est intéressé à la une de Libération mercredi, titrant bien évidemment sur le scoop Wikileaks, mais qui a parlé du portrait de Steven Cusan, ce jeune soignant, aide-soignant, qui milite pour le droit des homosexuels à donner leur sang. Eh bien, pas grand monde. L'indignation et l'égalité sont des concepts à géométrie variable en France en 2015. Et il va falloir continuer à s'y faire. Bienvenue dans ce 32e numéro de Milkshake, la crème de la crème des infos sociétales et culturelles de la semaine en direct et en public de la librairie Moula jusqu'à 20h sur Radio Campus Bordeaux. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, chers auditeurs et chers publics nombreux de la librairie Mola. On se fait mousser et deux petites minutes, ça descend. Je vais vous présenter très rapidement l'équipe autour de la table ce soir. Il y a bien évidemment Laura Cassouf.
Bonsoir.
Johan Sed est ici.
Bonsoir à tous.
Annabelle Gazzano.
Bonsoir.
Qui s'occupe également des réseaux sociaux, un petit point là-dessus.
C'est ça, je suis là et en même temps sur internet avec le hashtag MilkshakeMola. Si vous voulez nous tweeter, nous retweeter, allez-y.
Alors ça c'est derrière le micro, mais en plus nous avons parmi nous Vincent Dupuis à la réalisation, Marc-Alexandre Espio à la gestion de la liaison informatique ici chez Mola. Et Nicolas Grouchka est en studio à Pessac. Nous avons également Martin Copard qui fait des photos par là, Mehdi Boukhari qui fait des photos par là. C'est pas du tout radiophonique ce que je dis, mais là c'est plus pour le public. Au programme de cette 32e émission à 19h10, notre invité sera le chanteur Marc Domeil qui est par là, que l'on a connu dans le groupe Cocoon et qui viendra ce soir nous présenter des chansons. J'avais marqué des chansons de son premier album, mais non, ce sont des chansons qu'il a écrites la semaine dernière. Voilà. Il nous jouera donc dans la foulée un morceau, après également un autre un peu plus tard dans l'émission. À 19h20, notre grand format sur la culture à Bordeaux avec Denis Mola, ici présent, maître de ces lieux, PDG de la plus grande librairie indépendante de France, mais aussi Pauline Reifer et Johanna Carrère, qui sont créatrices du festival du film indépendant de Bordeaux, le FIFIB, dont la 4e édition se déroulera cet automne, c'est bien ça ?
C'est ça, oui. Bonjour, bonsoir. Bonsoir.
Des invités qui sont réunis autour de l'idée de l'indépendance de la culture, nous en discuterons avec eux. Et ne manquez pas le journal de la pop culture, c'est à 19h45, sans oublier le tout dernier billet d'humeur de Johan, ce sera à 19h50. Mais tout de suite, comme chaque vendredi, on débriefe l'actualité de la semaine juste après le tour de l'info en 60 secondes chrono.
Milkshake.
Pour cette cinquantaine de migrants, eh bien, ça fait déjà 5 jours que cette situation dure. La France refuse de les laisser passer cette frontière qui est à quelques mètres seulement derrière nous.
Y a-t-il une chance d'éviter à la Grèce la sortie de l'euro ? La Banque centrale grecque annonce qu'un début de panique est observé dans les banques où les retraits d'argent ont nettement augmenté.
C'est dans cette église que le drame est survenu, l'une des plus anciennes du pays, fréquentée par la communauté noire. Dans l'après-midi, le président Obama est intervenu à la télévision.
Ce type de tuerie collective n'arrive pas dans d'autres pays civilisés, et nous avons le pouvoir d'agir contre ça.
La reprise se diffuse dans la zone euro, c'est le titre de la note trimestrielle de l'INSEE. Cette reprise, à défaut de faire baisser le chômage, permettra au moins de le stabiliser au cours du deuxième semestre à 10,1% de la population active.
Un montage réalisé par Annabelle, ça c'était la semaine dernière. Et pour cette semaine, c'est donc Laura et Johan qui vont débriefer à deux voix ce dernier journal de la semaine. Et on commence par vous, Laura, il me semble, avec pour une poignée de dollars.
Oui, on en parle Soit pour ses arrivées de migrants, soit pour ses problèmes financiers, c'est la Grèce qui fait parler d'elle cette semaine. Les ministres des Finances des différents pays européens se réunissaient hier pour une énième Eurogroupe visant à trouver un accord quant au remboursement de la dette grecque. Alors à l'issue de cette journée de négociation, c'est le même refrain que ces dernières semaines qui a été donné par Alexander Stubb, le ministre finlandais, qui a déclaré que les institutions et la Grèce continuent ensemble à travailler, mais n'ont toujours pas trouvé d'accord. Alors les Allemands commencent à s'impatienter, les Grecs ne souhaitent toujours pas céder aux mesures proposées par l'Europe. Et donc finalement, alors qu'en interne, les Grecs préparent des solutions alternatives comme un remaniement, l'écriture d'un technocrate pour rompre avec les schémas du passé. La seule chose restant certaine ce soir est la date butoir du remboursement dû au FMI, le mardi 30 juin prochain.
Apocalypse Now, Johan.
Ce matin, peu avant 10h, deux personnes en voiture ont foncé dans une usine de produits chimiques située en Isère, dans la ville de Saint-Quentin-Fallavier, et font exploser les bonbonnes de gaz. Rapidement, les secours et les forces de l'ordre arrivent, découvrent des banderoles et un homme qui avait été décapité ultérieurement. La tête a été retrouvée accrochée au grillage de l'entrée de l'usine, couverte d'un drapeau portant des inscriptions en arabe. Deux hommes d'une trentaine d'années ont été interpellés alors que l'un d'eux tentait d'ouvrir une bouteille d'oxygène. Fichés pour radicalisation en 2006, ils sont actuellement interrogés. François Hollande, quant à lui, présent au Conseil européen, est revenu à Paris pour présider un conseil de défense. La SDAT et la DGSI s'emparent de l'enquête, probablement d'un attentat, mais les doutes persistent maintenant que l'on sait que la victime n'était qu'autre que le...
Patron.
Que le patron de l'un des deux assaillants. Mais la France, ce vendredi, n'est pas la seule touchée. Attentat suicide au Koweït, mais aussi attaque dans un hôtel touristique en Tunisie, près de Sousse. 27 victimes.
Alors, Johan et Annabelle, je ne sais pas vraiment, mais il me semble, Laura, vous avez écouté vous étiez en direct sur les infos ce matin.
Oui, j'étais en direct. J'étais en direct.
Est-ce qu'il n'y a pas Bon, il se passe des choses, effectivement, mais est-ce qu'il n'y a pas un léger accès de paranoïa?
Ah, mais comme toujours, hein, les médias, c'est devenu leur meilleur ami. C'est la paranoïa, c'était génial. Donc, on a eu. L'info est partie, en fait. C'est le Dauphiné, je crois, qui l'a sorti en premier. Donc, on a vu cet article isolé sortir. Et puis, alors après, ça a pris des proportions incroyables. Avec tout le monde qui faisait ses hypothèses. Mais, enfin, vous connaissez les médias, donc, comme d'habitude. Et finalement, pour se rendre compte, enfin, au fur et à mesure, en fait, ça a gonflé. Jusqu'à ce que ça dégonfle petit à petit. Parce que, ah, mais en fait, c'était pas un drapeau de Daesh qu'il avait sur la tête. C'était juste un drapeau avec des inscriptions arabes. Bon, on sait pas trop ce que c'est. Ah, mais en fait, c'était peut-être pas un attentat. Parce que finalement, c'était son patron, en fait, qui l'a tué. Donc, on sait pas si c'était des raisons personnelles. Donc, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on sait, qu'il y a eu une alerte attentat, que le président est revenu, le premier ministre va revenir, que tout le monde était sur le pont, et qu'on ne sait pas si c'est un attentat ou juste quelqu'un voilà, qui a pété un câble contre son patron. Donc on en saura certainement plus demain quand tout le monde se sera un peu calmé et aura fait son travail.
Justement, en parlant de vocabulaire, on a beaucoup parlé du terme d'attentat. Johan et Annabelle, qu'est-ce que ça... Faites pas le surpris, Johan. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette utilisation de ce mot-là
Moi, ça me fait peur.
Donc, mais sinon.
Pour moi, ça se banalise énormément et je pense que c'est, comme disait Laura, un effet de masse, un effet boule de neige, on va dire, que les médias utilisent et réutilisent pour ensuite faire peur pour vendre. Ça, on connaît très bien. Il n'y a pas de problème. Mais c'est dommage de banaliser ce mot qui est pourtant, pour moi, quelque chose d'assez important.
Puis disons aussi que c'est l'ambiance du moment aussi, donc. Enfin, voilà, donc je pense qu'on l'utilise comme ça.
Un petit peu trop à tort et à travers.
Relativement, peut-être.
Pour finir, Laura, les hommes du président.
Oui, puisque Wikileaks a encore frappé cette semaine en publiant mardi dernier des extraits de la base de données du TOPI, le Target Office of Primary Interest, qui est une branche de la NSA, l'Agence de Sécurité Nationale Américaine. Donc dans ces extraits, on découvre notamment que depuis 10 ans seulement, une unité spéciale espionne les conversations téléphoniques de certains dirigeants français, depuis une antenne du toit de l'ambassade des États-Unis, rien que ça, qui est donc placée, quand on le sait, au cœur de Paris, entre toutes les institutions françaises. C'est génial. Donc de Jacques Chirac à François Hollande, en passant par Nicolas Sarkozy, l'Élysée et d'autres grands bureaux parisiens ont été sur écoute. Alors si tous nos dirigeants ont déclaré à l'unanimité qu'être surpris reviendrait à être naïf, tout simplement, ils ne tolèrent pas qu'une telle pratique ait été mise en place par les États-Unis, encore moins à l'encontre d'un pays ami. Donc François Hollande a dès le lendemain, mercredi, donc convoqué une réunion du Conseil de défense qui a finalement qualifié ces actes d'inacceptables et a déclaré que la France ne tolérerait aucun agissement mettant en compte sa sécurité et ses intérêts, je cite. Et bien sûr, si Barack Obama a assuré au téléphone à notre président que de telles pratiques ne se reproduiraient plus jamais, on a déjà entendu ça il y a 2 ans, rien n'est moins sûr, surtout quand on sait l'amour des États-Unis pour la collecte d'informations.
En résumé, on peut dire qu'utiliser un scooter, c'est pas très dangereux pour la sécurité nationale, mais utiliser son BlackBerry, c'est pas top. Hein.
C'est un peu compliqué là. Hein. Ouais.
Tout de suite, on retrouve notre invité, Marc Domeil, toujours en direct et en public de la librairie Mola sur Radio Campus Bordeaux. Il est 19h10.
C'est Milchek et c'est chez Mola.
Bonsoir Marc Domeil.
Bonsoir.
Alors avant toute chose, est-ce que vous pouvez vous présenter si certains de nos spectateurs ou auditeurs ne vous connaîtraient pas encore?
Alors bonsoir, je m'appelle Marc Domeil, j'ai 30 ans, je mesure 1m87, je suis né le 6 décembre 1984, j'ai grandi à Clermont-Ferrand.
Et scolarité
là, scolarité pas mal, ouais. J'ai même fait une prépa.
Pas mal.
Et pendant, justement, à ce moment-là, j'avais mon premier enregistreur 4 pistes aussi. Je me suis mis à la musique très tard, donc je suis musicien. Et donc, dans ma chambre d'étudiant, je me suis mis à m'enregistrer. Et mes parents sont profs. Ils m'ont dit, c'est qui tout double? Tu tentes, t'as un an pour tenter ta chance, en gros. Et j'ai envoyé mes chansons dans chez une maison de disques. Et j'ai été signé à 20 ans quoi, pour donc, mon projet qui s'appelle Cocoon. Et puis voilà, déménagement à Paris, vie délurée.
C'est le moment de passer aux confidences, là, faut y aller.
Et Cocoon, tournée dans le monde, super, génial. Et après, Paris, un peu triste. J'étais pas heureux là-bas et du coup, Bordeaux me paraissait être une bonne option. Et je suis tombé amoureux de la région.
C'était un bon choix finalement.
Ouais,
excellente idée.
Donc voilà, et j'ai sorti donc en tout. Enfin, bon, moi, j'ai sorti des disques et je continue à faire des chansons, voilà. C'était quoi la question?
Bah, c'est bien. En plus, vous avez tout dit. J'ai même plus de questions à poser. C'est magnifique. Non, justement, vous parliez de Bordeaux. Donc, vous avez déménagé à Bordeaux il y a 3 ans, il me semble, 2-3 ans. Vous n'êtes pas le seul, hein, puisque selon la mairie de Bordeaux, le taux de croissance et de démographie est de 9,2% en 8 ans, entre 1999 et 2007.
J'ai plein de copains artistes qui sont en train de...
De venir aussi.
Ouais.
On nous annonce même un plus 13% de démographie pour 2030. Alors, un peu de chauvinisme dans ce haut lieu bordelais qui est la librairie Mola. On sait que Bordeaux est la plus belle ville du monde, bien évidemment. Mais sans plaisanterie, qu'est-ce qui vous a amené à choisir Bordeaux?
Déjà, ma femme est
c'est un bon argument.
Et du coin. Et bref, pour des raisons pratiques, familiales, c'était plus pratique de venir ici. Et puis, fallait soit retourner en Auvergne, soit aller en Gironde. Et l'Auvergne, no way. Donc... Enfin, j'ai vraiment, je suis plus mer, bassin d'Arcache, l'huître, vin rouge, que fromage et vache.
Résumé à ça, effectivement, ouais. Bordeaux, c'est bien.
Justement, Cocoon, vous en parliez, vous avez connu le succès que ce groupe formé avec Morgane Imbeau en 2005, c'était donc à Clermont-Ferrand, avec les vaches et tout ça. un premier album en 2005 et ce single en tétant Choupi, une tournée triomphale, un deuxième album qui a un peu moins bien marché.
Non, en fait, il s'est plus vendu que le premier, mais le premier a eu plus
d'impact médiatique,
de musique. On a eu beaucoup, on a fait partie de ces premiers groupes où c'était plutôt chic d'avoir une musique dans une pub, alors qu'avant c'était être un gros vendu. Et nous, on fait partie de cette nouvelle génération qui est complètement décomplexée vis-à-vis de ça. En même temps, vu qu'il n'y a plus du tout d'argent dans ce métier, c'était aussi une manière de pouvoir, enfin vraiment complètement honnêtement, il faut l'avouer. Du coup, Cocoon en pause en 2012.
Alors, on sait bien ce que ça veut dire les pauses.
Ouais.
C'est que c'est fini.
Non,
en fait.
Pas du tout. Je sais pas qui c'est qui t'a dit.
Pas du tout. Non, sérieux, c'est ça. Potentiellement, il y a un projet.
On a fait un concert il y a quelques mois.
Ok.
Non. C'est juste qu'à un moment, j'avais vraiment envie de. J'en pouvais plus mettre ma guitare acoustique.
C'était ma question. Pourquoi ce changement? Pourquoi ce nouveau projet?
Quand t'es 10 ans avec l'un sur l'autre comme ça, parce que vraiment c'est intense. On pouvait plus voir en peinture, quoi. À la fin, il fallait vraiment qu'on parte en vacances. Et du coup, moi, j'en ai profité pour faire un disque. Donc, complètement dans une autre couleur, sous mon nom, toujours chez Barclay, ma maison de disques. J'avais besoin de le faire, j'avais besoin de tenter ça. J'avais pas forcément envie de faire de grosses tournées avec ça. J'avais juste envie de faire autre chose pour. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais assez malheureux sur scène, sur ce disque, parce que j'étais derrière un synthétiseur et j'avais pas cette vibration de la guitare acoustique, en fait. Donc, je suis parti pour mieux revenir. Elle me tient en laisse un peu.
Sur le site Topito, vous avez déclaré que dans votre top 3 des, je cite, métiers que vous auriez voulu faire à la place de troubadour, vous avez déclaré la chose suivante, animer une émission de radio, entre parenthèses, sur France Inter, par exemple. Ça a été longtemps mon rêve numéro 1.
Non, ouais, je pense que ça rêve de plein de mecs, non? France Inter, c'est quand même cool.
Alors, j'ai envie de vous dire bienvenue dans ma vie, déjà. qu'est-ce que vous aimez dans la radio?
Et en fait, j'ai toujours eu, depuis que je suis ado, des petites émissions. Mon père, en fait, est artiste et il avait une émission sur Radio Bleu. Ça s'appelait Radio France à l'époque, Radio France Auvergne, je sais pas quoi. Et il avait une émission. Lui, il est fan de bande dessinée. Du coup, là, d'ailleurs, j'ai commencé à faire, mais il m'a un peu transmis le truc. Et d'ailleurs, Mola, pour les BD, c'est dingue, quoi. C'est vraiment super. Bravo. Et bref, et du coup, j'ai tout de suite, je trouve que c'est le média le plus chic, le média le plus où on comprend, on est le moins pollué par les images justement. La télévision, vraiment, je regarde jamais, je déteste ça. Quand je suis invité dans des émissions, je trouve que c'est du carton-pâte total. Et là, non, je trouve qu'il y a vraiment, c'est un média noble, je trouve. C'est un des derniers médias nobles.
Non, là, c'est en dur, la table est en bois, il y a pas de problème. Justement, on va peut-être arrêter de parler, on va vous laisser chanter éventuellement. J'allais vous lancer en disant que c'est une chanson de votre premier album solo, mais pas du tout, parce que vous m'avez confié hors antenne que c'est une chanson que vous avez écrite la semaine dernière.
En fait, ce soir, je tente des trucs. Je reviens, voilà, je vais pas faire des énormes annonces ce soir, mais voilà, bref, je teste des chansons.
Ah, des petites exclus quand même. Marc Domeil, tout de suite, sur Radio Campus Bordeaux.
Je mets les paroles. Alors, plouf, plouf.
Storm calling me, I won't pick up, I need to be alone. Oh, don't be dismayed, if risen once and I'll rise again. Oh, I don't know what's best for me lately. I'm never just alright. Maybe I need a rest, some time away. I think I just wanna change. When was the last time I had first time? Don't be dismayed, you're falling once and I'll fall again. Oh, I don't know what's best for me. Some time away, I think I just wanna change. Oh, and I think I just wanna change.
Marc Domeil à l'instant sur Radio Campus Bordeaux et ici également en direct de la librairie Mola. Est-ce que cette chanson a un nom ? Est-ce qu'on peut
Retreat.
Très bien, merci. On va tout de suite, il est 19h19, très exactement, et c'est l'heure de notre grand format.
Milchèque chez Mola.
Waouh, Johan, vous avez franchement vous avez une aptitude à faire des jingles, c'est vas-y, en direct, en direct. Ouais.
Milchèque chez Mola.
Bravo. Bravo. Laura.
Camille, bonsoir.
Je vous laisse la parole.
Non, mais c'est peut-être le moment de passer aux choses sérieuses. On est quand même là pour parler de culture à Bordeaux. Alors, vous l'aurez peut-être un tout petit peu compris, que ce soit ce soir ou toute la saison, on est à peine chauvin dans cette émission. Voilà, mais en même temps, dans une ville comme Bordeaux, c'est normal. Je veux dire, on n'a rien à lui reprocher, presque. Donc, on ne pouvait pas non plus chercher trop loin. Donc, évidemment, le sujet pour la dernière émission s'est imposé de lui-même. On va parler de notre ville qu'on aime tant. Il fallait un angle, alors de quoi on va parler ? Bon, on va parler de culture, parce que c'est génial, parler de culture, c'est large, on va pouvoir satisfaire tout le monde. Et c'est comme ça qu'on a de la musique à ma gauche, pour ceux qui ne sont pas devant leur poste de radio et qui ont un visuel sur ce qui se passe, du cinéma à ma droite, et puis encore de la librairie et de la culture indépendante à ma gauche, donc c'est génial. On vous les a déjà présentés, je refais un rapide tour de table, c'est Marc Domail qui vient de vous jouer un superbe morceau et qui sera là pour représenter un peu l'industrie musicale. Denis Mola qui nous fait le plaisir non seulement de nous accueillir dans cet espace exposition de la librairie Mola, mais en plus de venir parler de culture avec nous. Et les filles, les créatrices, directrices, programmatrices du FIFIB, Pauline Reifers et Johanna Carrère. Bonsoir les filles.
Bonsoir.
Et donc on va pouvoir parler de culture tous ensemble. Alors parler de culture c'est quand même super large, parler de Bordeaux c'est large. Parler des deux déjà c'est un petit peu plus étroit, on va pouvoir continuer comme ça à restreindre petit à petit. Comment est-ce qu'une ville favorise la culture finalement, la création culturelle ou l'implantation d'un nouvel événement comme le FIFIB, favorise la longévité d'une institution culturelle comme Mola ou encourage encore les créations culturelles au quotidien comme la musique ? Mais c'est la question qu'on va se poser ensemble et on est très bien entourés pour le faire. Et je vais commencer avec vous, Denis Mola, je me sens déjà bonsoir. Merci encore de nous accueillir ici dans votre belle librairie. Et je vais d'abord vous demander, à l'heure des FNAC, à l'heure d'Amazon et des autres plateformes de vente en ligne, comment est-ce qu'une librairie indépendante comme la vôtre, comme la librairie Mola, peut continuer à subsister ?
Oh, la réponse est simple. Il y a beaucoup de livres, il y a 180 000 références, 350 000 volumes en moyenne. C'est variable, au mois de décembre, il y en a beaucoup plus avec la fin d'année. Et puis, deuxième chose, lorsqu'il y a beaucoup de livres, beaucoup de titres, il faut de bons libraires, et suffisamment nombreux, ils sont 55. Voilà la réponse.
Donc on va à l'encontre de tout ce qu'on nous dit et puis on embauche et on prend des livres.
Oui, tout à fait. Finalement, pour résumer, dans une librairie, finalement, on demande toujours au libraire le livre qu'il n'a pas. C'est pour ça qu'il en faut beaucoup.
Donc, comme ça, on assure les arrières.
Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on fait comme différence entre une librairie indépendante et une grande chaîne de librairies ?
D'abord, il ne faut pas faire de ségrégation. À partir du moment où il y a du livre, on en va, quelle que soit la manière, quel que soit l'endroit, c'est une bonne chose. Ça veut dire, ça c'est le premier point, il n'y a pas de tension, que ce soit avec la FNAC ou nous-mêmes, c'est deux points de vue différents. La FNAC a fait un choix à un moment, c'est de limiter son nombre de références, tout simplement parce que lorsqu'il y a moins de références, il y a besoin de moins de libraires. Donc c'est une équation assez simple. Par contre, nous avons fait le pari qu'il fallait être le plus exhaustif possible, donc c'était le choix inverse. Mais finalement, c'est une cohabitation qui se passe très bien. Regardez, le centre-ville de Bordeaux est quelque chose de très dynamique. Le fait qu'on soit pas loin les uns des autres, c'est une très très bonne chose.
Effectivement, c'est plutôt pas mal, en tout cas pour nous, quand on cherche, on a tout à portée de main. Alors, quand on voit la taille de la librairie Mola, quand on sait à quel point c'est une institution, enfin, petite anecdote, j'ai une amie lyonnaise qui est venue il n'y a pas longtemps, et puis quand je lui ai dit « Bon, tu vas aller voir quoi à Bordeaux en premier ?» Elle m'a dit « Tu m'emmènes à la librairie bleue. » Donc j'ai compris que c'était Mola. Donc quand on est reconnu comme ça, même hors de la ville, finalement, qu'est-ce qui reste d'indépendant de cette librairie ?
Alors, l'indépendance, elle est à différents niveaux. D'abord, indépendance, c'est toujours une librairie qui appartient à une famille. Il n'y a pas de capital bancaire ou quoi que ce soit à l'intérieur. Puis c'est aussi l'indépendance aussi de tous les libraires à l'intérieur. C'est organisé autour de rayons. Et dans chaque rayon, il y a la responsabilité de chaque libraire et de chaque groupe pour sur ses achats et la manière de le gérer. Donc l'indépendance, c'est aussi une forme d'indépendance dans le fonctionnement de la librairie. C'est vrai que c'est la plus importante en France. Vous savez pourquoi ?
Ah non, mais on
veut
bien savoir.
Parce que les Bordelais sont cultivés intelligents.
Voilà. Alors là, vous ne pouviez pas nous donner une meilleure réponse autour de la table, on est ravis. Alors là-dessus, face à l'institution Mola, je vais me tourner vers les dernières arrivées, on pourrait dire, sur la scène culturelle. Bon, il y en a peut-être eu d'autres depuis, mais en tout cas à la table, sur la scène culturelle bordelaise, puisque Pauline et Johanna, vous avez tout simplement, rien que ça, créé un festival international du film indépendant de Bordeaux. FIFIB, c'est quand même plus sympa. Alors, on a Mola à côté, qui est déjà bien institué, que tout le monde connaît, etc. Comment est-ce qu'on arrive comme ça, comme des fleurs, en disant on veut faire un festival, on veut qu'il fonctionne, on veut qu'il soit reconnu à l'international et on veut que ce soit à Bordeaux.
Bon, on va devoir choisir qui répond. Hein.
Merci.
Non, moi juste, je voulais dire, c'était quand même assez facile parce qu'il n'y avait pas de festival de cinéma à Bordeaux. Donc déjà, ça, c'est important de le savoir. Et pour nous, c'était absolument effectivement nécessaire qu'il y en ait un, parce que d'abord, en tant que cinéphile et bordelaise, on avait envie qu'il y ait un festival de cinéma. Et donc, on attendait un petit peu que quelqu'un se décide à le faire. On s'est un petit peu lancé parce que je pense que c'est une ville qui permet aussi ça. C'est-à-dire que la dimension internationale, elle l'a déjà. Et puis, culturellement, elle est en train de se construire, de se remplir. Et il y a encore plein de possibilités par rapport à une ville comme Paris. Et donc, voilà. Donc, il y avait de l'espace et en même temps du potentiel. Donc, voilà.
Mais au début, quand même, on doit quand même ramer, non ? Pour justement trouver les partenaires, le contenu, tout ça. Et finalement, qu'est-ce qui est le plus dur dans les deux ? C'est justement trouver les partenaires ou trouver le contenu ?
Alors effectivement, je pense que quand même, nous, on est arrivés au bon moment et au bon endroit, parce que, comme le disait Johanna, il n'y avait pas de festival de cinéma à Bordeaux, donc il y avait la place pour. Pour trouver des bons partenaires, il faut un bon contenu. Ouais. Donc d'abord, élaborer un contenu et ensuite aller voir des partenaires pour essayer de, voilà, de collaborer avec plein
mais
de gens.
Effectivement, ce n'est pas simple parce que quand même, voilà, on est sur un créneau qui n'est pas hyper sexy. L'indépendance, souvent, les gens nous disent « Ah ouais, c'est des films chiants. » Voilà. Donc, effectivement, on fait un contenu, on essaie d'y rester fidèle et de faire émerger des choses, porter un regard différent que sur ce qu'on peut voir au cinéma tous les jours. Donc voilà, il y a une certaine part d'exigence qui fait que ce n'est pas forcément un contenu qui est connu des partenaires. Et donc, ce n'est pas toujours facile, mais il y a quand même des gens qui sont intelligents et qui savent, qui prennent des risques. Et ça, c'est hyper important dans la culture. C'est que souvent, on apporte des choses nouvelles. Et donc, il faut qu'il y ait des gens qui acceptent de suivre des projets, même si ce n'est pas forcément reconnu et s'ils n'ont pas un retour sur investissement tout de suite.
Alors justement, au niveau du contenu, il me semble qu'au début, le projet, c'était de faire un festival sur le cinéma européen. Non.
Oui.
Comment vous savez ça?
je sais beaucoup de choses.
Ça, c'est incroyable.
Mais pour revenir au cinéma indépendant, justement, donc vous avez décidé de travailler sur ce sujet-là. Plus généralement, pour expliquer un petit peu aux gens qui ne savent peut-être pas ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire le cinéma indépendant?
Alors, c'est un vaste sujet parce que, aux États-Unis, c'est assez simple. Il y a deux manières de faire du cinéma. Il y a les studios et puis il y a les gens qui font le cinéma indépendant, c'est-à-dire qui ne sont pas dans les studios. En France, c'est un petit peu différent. On est le pays du cinéma d'auteur. Donc, du coup, pratiquement, si on prend ça d'un point de vue très américain, tout le cinéma français est indépendant. Nous, on a décidé de prendre ce terme indépendant parce que d'abord, il est international et que tout le monde comprend que c'est un cinéma de création. C'est un cinéma avec un message et c'est pas un cinéma avec des visées, enfin un but commercial, parce que c'est aussi une industrie, le cinéma. Donc c'est vraiment des gens qui ont des projets qui leur tiennent à cœur et c'est des gens qui remettent un petit peu en cause les choses et les points de vue. Et donc notre association s'appelle Semer le doute. Voilà, parce que l'idée c'est de pouvoir bouleverser un petit peu les idées reçues et d'apporter un regard neuf et nouveau. Et voilà, je parlais de la prise de risque tout à l'heure, donc c'est des gens qui prennent des risques. Donc c'est souvent, nous, c'est plutôt des premiers, deuxième, troisième films. Donc c'est plutôt aider des jeunes réalisateurs à émerger.
Non, j'allais dire une bêtise en plus. Non, juste que Jurassic World, c'était pas du tout un film indépendant. Pourtant, il y a un joli message dedans.
Voilà. J'aurais dû prendre la parole avant, je le savais. Du coup, je sais même plus ce que je voulais dire. Oui, alors une fois qu'on a pris ce risque de départ, qu'on s'est lancé, que des gens vous ont suivi, que vous avez eu cette chance, comment est-ce qu'on devient ? Parce qu'aujourd'hui, le Fifib, quand on en parle, en général, les gens connaissent. Donc vous commencez quand même à vous établir dans le paysage culturel bordelais. Comment est-ce qu'on s'installe, justement ? Et qu'on ne devient pas un événement éphémère qui a eu lieu une fois, deux fois et...
D'abord, moi, je pense qu'un événement fonctionne bien et peut continuer de vivre quand il y a une bonne programmation. Donc on travaille avec un comité de sélection qui travaille à la programmation pratiquement toute l'année. Voilà, Léo Souessanto, Nathan Renaud et Sébastien Jounel et Mélissa Blanco, la fille du comité de sélection. Moi, je pense qu'il faut une bonne programmation et ensuite trouver des partenaires à la fois à Bordeaux et ailleurs pour arriver à rendre cet événement pérenne.
Et travailler avec les acteurs culturels locaux aussi au niveau de Bordeaux, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas tout seul dans notre coin. Et très vite, on a essayé de tisser un réseau et d'aller voir des gens dont on aimait le travail. La librairie Mola en étant, on est allé les voir dès la première année, et ils nous ont aidés. Puis il y en a plein d'autres, Aller les filles, enfin les Beaux-Arts, enfin je vais en oublier si je les cite, donc faut pas, c'est assez risqué quand même. Mais enfin, le cinéma Utopia sur lequel on s'appuie, qui est un super partenaire depuis le début. Enfin voilà, donc vraiment c'est pas s'isoler. Nous, on est arrivés, la crise avait existé déjà, et donc dans la culture, c'était déjà difficile. Donc c'est une chance. C'est-à-dire que nous, on n'a pas dégringolé comme pas mal de festivals. On est arrivés, c'était déjà dur. Donc finalement, on s'est appuyé sur d'autres appuis. On a monté le festival un peu différemment, beaucoup sur l'entraide, beaucoup de partenariats en nature et beaucoup d'échanges de visibilité et voilà, avec différents acteurs, même sur la programmation où on fait beaucoup de coprod et de coprogrammation. Et ça, c'est, je pense que le réseau et la solidarité, c'est ce qui permet de grandir un petit peu plus vite et d'être un petit peu plus solide quand on est tout jeune.
Alors j'allais vous demander s'il y avait des liens justement entre vous. L'idée, c'est un petit peu aussi de cette émission de que tous les invités se rencontrent. Donc je suppose que vous connaissez la librairie Mola, mais Denis Mola, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous êtes déjà allé au Fifib?
Je connais le Fifib, oui, tout à fait. Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Le plus grand bien.
En tant que spectateur, le cinéma, ça vous intéresse? C'est quelque
oui,
chose
tout
qui...
à fait. En réalité, je disais plus, on regarde énormément de films à la maison, mais c'est Blu-ray des DVD. Donc c'est un peu le côté pantouflard, mais en même temps, on peut avoir le lien avec le cinéma.
Marc, le Fifib, vous êtes aussi un spectateur assidu, pas
de,
encore,
de loin. Ben, je viens d'arriver, donc, mais j'ai l'impression que ça prend vraiment forme et que ça grossit bien et que c'est de plus en plus respecté. J'ai vu qu'à chaque fois, je vois la liste des invités, c'est tout le cinéma que j'aime. J'ai vu qu'il y avait Jonathan Cahouette, des gens comme ça.
C'est des gens qui m'ont vraiment beaucoup inspiré. Deux années de
suite même. Ouais, vraiment, voilà, j'ai l'impression que c'est un truc qui va durer, quoi.
Non, Laura.
Décidément, ce soir, on se coupe la parole. Justement, vous venez d'arriver sur Bordeaux. Ça a été quoi votre premier sentiment à l'égard de la scène musicale bordelaise?
Et tout de suite, j'ai été, grâce peut-être à Cocoon et à mes connexions, j'ai tout de suite été présenté. Il y avait notamment des artistes qui vivaient dans le coin, François and the Atlas Mountains, on a le même manager, donc ça a été assez facile. Et puis du coup, je suis aussi dans l'équipe de Animal Factory Records, qui est un... Enfin, dans l'équipe, il s'occupe aussi de moi. C'est un label bordelais qui d'ailleurs s'occupe de Botti Ball, de JC Satan, de trucs comme ça, de très rock. Et je suis très copain avec un garçon qui s'appelle Petit Fantôme aussi, et que j'adore vraiment. Enfin, je trouve sa musique, c'est le meilleur album d'il y a deux ans, le meilleur album français. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai plutôt été présenté à eux. Et je sais pas quoi vous répondre d'autre.
C'était déjà pas mal. C'était donc on retient que Bordeaux est encore une ville géniale parce que la scène bordelaise est super. Tout le monde aura retenu. Voilà.
Faut arrêter ce qu'on va croire qu'on est payé à faire ça.
Non, ben même pas. Mais écoute, on vit ici. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc bon, on va... alors pour enchaîner après ça va être génial. Mais donc du coup, la culture, c'est aussi faire de la vulgarisation culturelle. C'est aussi rendre accessible, finalement, rendre des contenus accessibles à tout le monde. Comment est-ce que chacun dans vos domaines vous donnez les moyens de remplir cette mission-là de toute institution culturelle, finalement? Denis Mola, peut-être.
Tout simplement, on s'est rendu compte que le livre n'était pas isolé dans le monde de la culture en général. Bon, il y a la lecture, il y a la musique, il y a les arts plastiques, il y a plein de choses. C'est pour ça qu'on a créé un portail de la culture de Bordeaux en Aquitaine qui s'appelle Station Zone, du nom du poète gaulois d'expression latine, et qui est un portail où il y a des agendas, mais il y a aussi des reportages, des vidéos, et ça nous a permis d'avoir beaucoup de partenariats. On parle aussi un petit peu de livres à l'intérieur, mais c'est le livre fait partie de tout un réseau maintenant. C'est pas quelque chose d'isolé, pas du tout, pas un ghetto du tout, donc pour nous c'est important. D'ailleurs, dans le développement de la librairie, on s'est rendu compte que par la culture, c'est un des moyens du lien social et ça deviendra de plus en plus important.
Oui, non, très bien. Et en termes de cinéma indépendant, vous nous disiez qu'on avait cette image du cinéma indépendant qui était un cinéma ennuyeux. Comment est-ce qu'on casse un peu les clichés et comment est-ce qu'on attire les gens dans les salles pour leur dire « ben non, le cinéma indépendant, c'est plus que ça ».
Bah, déjà, on essaie d'effectivement de plus en plus développer des événements gratuits. En fait, on a un village du festival qui est Courmabli, où on installe en fait un écran, où on fait des projections en plein air gratuites, voilà, pour les gens qui vont pas forcément au cinéma, pour essayer de leur faire un petit peu découvrir tout ça, avec des concerts, voilà, on décloisonne un petit peu le cinéma. Il y a l'aspect festif du festival qui permet d'attirer peut-être un public qui ne se serait pas intéressé de prime abord à la programmation. Et ensuite, on fait beaucoup d'éducation à l'image, en fait. On travaille avec des collèges et des lycées, on a accueilli 1000 scolaires l'an dernier, mais on fait aussi des actions hors scolaires. On a passé des films à la maison d'arrêt de Gradignan l'an dernier pour le quartier mineur, avec un réalisateur qui s'est déplacé là-bas. Enfin voilà, on mène des actions un peu ciblées et auprès des jeunes, quoi. L'expérience de la salle de cinéma, c'est hyper important, surtout à notre époque où où tout le monde regarde, consomme des films sur Internet très courts et zappe. Voilà, l'expérience de la salle, c'est hyper, hyper fort, et la rencontre avec les réalisateurs, et du coup, voilà, aller dans les salles de cinéma, réinvestir les salles de cinéma avec les jeunes, c'est important.
Donc le FICIB, c'est pas que au moment du festival, finalement. Il y a, c'est, toute l'année, vous avez des actions
Ouais, toute l'année, mais on essaie de développer justement ces actions-là tout au long de l'année.
Moi, vous avez parlé d'Internet, etc. Oui, je ne fais pas que les réseaux sociaux, je parle aussi d'Internet.
Annabelle est là ce soir, chers auditeurs. Vous ne la voyez pas.
Comment vous appréhendez, que ce soit pour la littérature ou pour le cinéma, cette dématérialisation des contenus, on va dire? On dit souvent que les jeunes ne lisent pas, par exemple, ou qu'on ne fait que télécharger des films. Quelle est votre vision par rapport à ça?
Du côté du livre, on se rend compte que la lecture est toujours présente chez les jeunes. Même un des rayons les plus toniques, c'est la littérature jeunesse, donc les tout jeunes âges, ce qui veut dire qu'à partir du moment où on lit lorsqu'on est jeune, on a une probabilité importante de lire plus tard. Et c'est le cas. D'ailleurs, lorsqu'on se promène à la librairie, on voit bien que la moyenne d'âge est plutôt jeune, et c'est très encourageant. Et ça, c'est un point très très important. C'est la concurrence, bien sûr, du numérique, de la tablette, de la phablette maintenant, et de la liseuse, eh bien, en France, c'est un marché qui n'existe pas, c'est 1% du marché. On est loin derrière nos voisins allemands qui sont à 6% et les Anglais qui sont à 12%. Les Anglais sont à 12% parce qu'ils n'ont quasiment plus de librairie, puisqu'ils n'ont pas un système de prix unique du livre, donc le livre est devenu un produit d'appel, et leurs librairies, ils sont quasiment toutes au bord de la faillite. Donc on a cette grande chance d'avoir en France un réseau hyper important. Vous évoquiez tout à l'heure Amazon, mais on a toujours la vision d'Amazon depuis vue aux États-Unis. Je vais vous donner un chiffre qui tout de suite éclaire les choses. En termes de points de vente, il y a autant de librairies aux États-Unis qu'en France. Quand vous voyez la différence de taille de ces deux pays, on comprend tout de suite qu'on a un maillage formidable en France qui permet à tout simplement d'être près des lecteurs, près de ce qu'il y a en plus dans la librairie. Il y a du lien social. 65% de nos clients viennent dans une librairie aussi pour pouvoir échanger.
On a parlé de cinéma indépendant, de librairie indépendante. Marc, vous n'êtes pas indépendant. Vous l'avez été. C'est là où j'allais en venir. Vous l'avez été avec le label Sober and Gentle. Mmh, qu'est-ce que ça change? Après, vous avez été dans une major chez Barclay.
Toujours. En fait, maintenant, j'ai moi-même, parallèlement à mes contrats chez Barclay, j'ai moi-même ma structure qui s'appelle Yum Yum Records, que j'ai montée à Bordeaux, qui est un label aussi. Je cherche des artistes, des nouveaux talents pour les aider. J'ai un studio, en fait, où je peux peut-être les prendre une semaine avec moi pour les aider. Pour l'instant, bon, j'ai pas trouvé grand monde, mais
qu'est-ce que ça change du coup d'être indépendant ou d'être dépendant d'une major, d'une grande maison de disques? Est-ce que dans la manière de travailler, ça change vraiment quelque chose ou pas?
En musique aujourd'hui, on est dans trois domaines: le cinéma, la littérature et la musique, qui ont souffert peut-être pas Monsieur Mola, mais qui ont souffert de la crise et puis de la dématérialisation. Vous disiez, vous, c'est 6% en Allemagne, 1% ouais, en France. Mais en France, ça a été vraiment un désastre. Et aujourd'hui, le marché de la musique en France est quasiment mort, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un ou deux artistes qui... Enfin, il y a une dizaine d'artistes par an qui vendent encore des disques. En tout cas, le marché du disque est terminé. Et donc, il faut trouver d'autres... Ça me fait hyper bizarre que vous écoutez, en fait.
Hein, le marché du disque est terminé, tout ça. Non, on fait plein de
choses en même temps. Là, j'enfonce des portes ouertes. L'indépendance...
C'est l'avantage de la radio, c'est qu'on ne se voit pas.
C'est parce que là, vous nous voyez, mais d'habitude, on fait ça tranquille. D'accord. Voilà,
non, mais depuis tout à l'heure, ça me trouve.
Désolé.
Et du coup, c'est vrai que, bon, bref, on ne vend pas des disques, qu'on soit indépendant ou même maintenant en major. Donc, c'est pas... Vu que, de toute façon, ces maisons de disques, qu'elles sont indépendantes ou pas indépendantes, permettent... Tu vends ton disque, ça te permet de mettre ton disque dans les bacs. Aujourd'hui, bon, bah, des bacs, il n'y en a plus beaucoup. Et donc, du coup, moi, je trouve que c'est un non-problème aujourd'hui. Un disque, de toute façon, maintenant, ça coûte 0 euro à fabriquer. On gagne notre vie par le publishing ou par la tournée. Et terminé, quoi.
Mais ça coûte cher aussi, peut-être.
De quoi?
Un disque, maintenant.
À acheter, ouais, je sais pas.
Ben, maintenant, enfin... On peut plus se permettre d'en acheter.
Moi, je suis abonné à Spotify. J'adore Spotify.
Mais moi, qui suis de l'ancienne génération.
Et je trouve ça dingue, mais j'ai pas acheté de disque depuis.
Ah ouais, mais moi, je fais que ça, moi.
Alors, il y a un boom. On parle du vinyle en ce moment, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est minuscule, quoi. D'accord. Sur, je sais pas, sur dans Cocoon, sur, je sais pas, 400 000 albums vendus, on a vendu 20 000 vinyles et c'était des énormes ventes quoi, sur le deuxième. Mais bon, aujourd'hui, il paraît que c'est un peu mieux.
Avant de finir, j'aimerais poser une question à tous nos invités. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans 10 ans? Où est-ce que vont vous amener vos projets dans 10 ans, à votre avis?
Ça ne m'occupe pas.
Ben ouais, d'abord.
Que je sois... Je sais pas. J'aimerais bien faire autre chose à un moment aussi, parallèlement.
Que de la musique
ouais. Ouais. J'aimerais bien faire de la radio, justement. Donc,
Bah, j'ai une petite carte de visite, on s'appelle.
Oui, on s'appelle.
Denis Mola, dans 10 ans, Mola, ça ressemblera
déjà
à quoi?
L'année prochaine, on prépare les 120 ans. Donc on aura dépassé l'âge des rhumatismes. Et le livre à 10 ans, j'y crois encore beaucoup. Parce qu'il y a un côté objet qui joue beaucoup. C'est important. Il y a la main du papier. C'est vrai qu'on n'est pas sinistré du tout comme la musique. Donc, aux éditeurs, il faut leur dire de faire de beaux livres et ça continuera de se vendre. Voilà.
Vous pousserez les murs peut-être un petit peu?
Oui, on va s'agrandir. On sera ravis de vous accueillir rue de la Vieille Tour, surtout un très très grand espace. Ouvert avec sur deux niveaux, un espace rencontre grand, près de 300 places, et puis dessous un espace exposition.
Jonah Carrère, Pauline Dreyfer, dans 10 ans, ça sera la 14e édition du coup, du Fifib. Ouais.
Une longue vie au Fifib, et peut-être, pourquoi pas, des nouveaux projets, des nouveaux festivals,
un festival de musique.
Ouais, ouais. Voilà.
On aimerait bien monter un festival de musique en même temps que le Fifib, petit à petit.
Alors vous avez un producteur indépendant au bout de la table.
Voilà. Et puis de se renouveler surtout, de ne pas faire la même chose.
Mais merci beaucoup à tous d'être venus. On vous a parlé de vos 10 ans. Est-ce qu'on peut parler de juste pour demain? Qu'est-ce qu'on vous souhaite là, dans l'immédiat, à chacun pour vos projets perso?
D'aller à la plage.
Pas mal.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Ce week-end, ça devrait être pas mal.
Il paraît.
Marc?
Justement, je vais sortir un livre là. Je suis en train de terminer.
Parfait.
Voilà.
Ah. Vous avez un libraire à côté.
Non, mais j'ai trouvé un éditeur, ça y est.
Mais maintenant, il faut le libraire, voilà.
Voilà, et le
l'intermédiation.
Oui. Bah, je reviendrai vous le présenter.
Avec plaisir. Voilà, ouais.
On fait des interviews sur Radio Campus aussi, on reste en contact. Ouais.
Voilà. Donc voilà, je me souhaite de le terminer à l'heure, en temps et heure.
C'est déjà pas mal.
Et Mola, demain, alors Mola.
Demain, ben encore surtout beaucoup d'auteurs, des gens qui ont envie d'écrire, et puis des libraires pour les mettre en musique.
Je vais revenir vers vous, Marc Domel, puisque ça va être encore à vous de nous. Bah oui, il faut bosser un petit peu, de nous jouer une petite chanson. Alors donc, qui n'est encore une fois pas une chanson de l'album.
Non. Je n'ai rien compris à la promotion.
Non, mais on s'était dit qu'on ferait pas trop de promos, mais quand même, on voulait être sympa, mais non.
Non, mais en fait,
vous m'entendez là, même à la radio, toi?
J'ai fait un album, donc. Électro, là il aurait fallu amener mais 12 000 camions et musiciens, et donc là vraiment je voulais vous...
On avait pensé à louer la patinoire Mériadec, mais ce soir il y avait des camions devant, c'était pas possible quoi. La prochaine fois
je suis en formule légère.
Bon. Ben, Marc Domeil donc tout de suite sur les ondes de Radio Campus Bordeaux et ici en direct de la librairie Mola.
The light, but you
watch my back no matter what. And my fears, the real fears, you know. And my jokes, the real jokes, you know. And my tears, the real tears, you know. But my love is real love. Oh, my love is real love. Oh, my love is real love.
C'était nouvelle fois Marc Domeil à l'instant sur Radio Campus Bordeaux, un titre inédit qui a un nom celui-là aussi.
Watch My Back.
Sur Radio Campus Bordeaux, nous sommes toujours en direct de la librairie Mola encore pour un quart d'heure et il est donc 19h45.
Lol, 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 lol. Milkshake en direct chez Mola.
Il m'avait pas dit qu'il aurait lol. Lu ça.
Pourquoi du lol? Pourquoi quatre fois du lol? Puisque, comme tous les vendredis soirs à la même heure, c'est bien évidemment le moment tant attendu du journal de la pop culture. Ne rougissez pas, Laura, c'est trop tard. Faut se détendre maintenant, c'est l'heure de se détendre. On va commencer avec vous, Johan, avec le hashtag mail.
Oui, vous avez sans doute déjà écrit un message du genre « Ce mec est un gros naze, il a une tête de frangipane » en parlant de votre patron, ou « Je sais pas comment lui dire comment je suis fou amoureux d'elle » en parlant de celle qui fait boum dans votre cœur. Mais au lieu d'envoyer ces révélations à un pote, vous les envoyez malencontreusement à la personne directement concernée. Panique à bord ! Trop tard, c'est envoyé. Mais maintenant, grâce à Google, vous pourrez enfin annuler l'envoi de ce mail. Avant l'envoi définitif du mail, donc, il y aura un délai de 5 à 30 secondes, c'est comme vous voulez en fait, qui permettra de l'annuler. Ça, c'est cool. À préciser quand même que cette option existait déjà depuis bien longtemps. Il suffisait de fouiller dans les paramètres, mais elle n'était qu'en phase de test. Alors que maintenant, c'est sûr, elle est archifiable. Voilà, cela dit, elle est totalement inutile si vous ne vous rendez pas compte de votre bourde avant la fin du délai imparti, bien sûr. Voilà.
Hashtag Garorock avec vous, Annabelle, pour ceux qui nous écoutent depuis Marmande. Enfin non, c'est on ne capte pas Marmande.
Ça m'étonnerait. C'est pour la 19e édition du festival que les organisateurs du festival Garorock ont innové en proposant aux festivaliers de troquer en fait leur place de concert pour des bracelets électroniques. Vous savez, les petits bracelets qu'on passe à chaque fois pendant les festivals. Et alors, au-delà d'avoir cette place de festival, vous pouvez aussi mettre de l'argent dessus. Comme ça évite plus de jetons, plus de monnaie dans le portefeuille. Plus de peur pour perdre votre porte-monnaie. Les festivaliers doivent par contre d'abord se créer un compte sur le site de Garorock et pourront créditer la somme qu'ils désirent. Si on dépense pas tout, en festival c'est bizarre de pas tout dépenser, mais on peut quand même se faire rembourser. En associant son compte et un réseau social, le festivalier pourra aussi poster des messages sur son mur en utilisant son bracelet. Malheureusement, c'est pas une société française qui a fait ça, c'est une société américaine.
Ah ben bravo.
Voilà, il fallait quand même le préciser. Mais en tous les cas, Garorock est le premier festival français à proposer ça.
Je pense qu'on va vous envoyer en détox digital, Annabelle, puisque vous me proposez un petit peu trop de trucs qui sortent de l'ordinaire.
C'est les vacances, là, c'est la dernière, non?
Oui, oui, oui. Voilà, vous allez pouvoir aller à la plage, tout voilà. Ça, le grand air, etc. etc. Et puis, bien évidemment, Laura se lâche, lol, 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 hashtag sortez couvert.
Franchement, c'est pas cool. Alors, c'est une initiative de jeunes de 12 à 14 ans, qui sont un petit groupe de 3, c'est des jeunes collégiens britanniques, qui ont participé à un concours qui est le Teen Tech Award, et qui, en fait, récompense des initiatives et des inventions donc de l'année. Et ils ont inventé le préservatif qui dépiste, en fait, les MST en même temps. Donc, merci pour le jingle. Donc, c'est génial, c'est... 2 en 1, et donc il change de couleur si jamais il est en contact avec une MST, donc vert pour les chlamydias, jaune pour l'herpès, violet pour le papillomavirus et bleu pour la syphilis. Je pensais que ça allait avec l'histoire du festival, on sait tout ce qui s'y passe, donc sortez couverts.
Bon, mais on fera un petit retour d'expérience dans la saison 2, c'est ça? J'ai pas dit qui, hein. Johan,
oui.
Voilà. C'est fini, mais je vous sens un petit peu tout triste, là.
Chère Camille, je suis déçu. Je suis déçu parce que Je ne vous cache pas que depuis le début de l'année, j'attendais la toute dernière émission avec impatience pour pouvoir complètement me lâcher, être encore plus sexiste que d'habitude, dévoiler le grossier personnage qui sommeille en moi, me mettre tout nu et montrer mon irrésistible corps d'athlète. Sauf que je ne pensais pas... Oui, mais je ne pensais pas qu'on allait être en fait si loin de notre petit studio habituel avec nos petits micros, nos petits fauteuils et tout... Bon, ce n'est pas parce qu'on est chez Mola que je me suis dégonflé, mais c'est surtout parce qu'il y a papa et maman dans la salle. Donc ce soir, pour ne pas prendre de risques, je vais rester le petit garçon pur et chaste qu'ils connaissent. Voilà. Et puis, il y a un petit peu de monde autour de nous. Un producteur à la recherche de la nouvelle star se cache peut-être dans la salle, ou sans doute, qui sait, la femme de ma vie que j'attends depuis toujours. Donc autant rester poli, respectable et surtout habillé, au grand désespoir de Laura et Annabelle. N'oublions pas non plus qu'il y a des super invités, donc autant en profiter. Pauline et Johanna, les deux grands Manitou du Festival International du Film Indépendant de Bordeaux, le FIFIB. Alors, c'est un peu comme le Festival de Cannes, mais à Bordeaux, ce qui n'est quand même pas rien, voilà. Bon, même s'il manque encore les palmiers, les marches, Canal Plus et le décolleté de Sophie Marceau.
Pour de l'amour, on n'a pas besoin de ça. Hein.
Voilà, mais ne soyons pas défaitistes, hein, ça viendra. Marc Domel. Bon, alors c'est vrai qu'étant fan absolu de Dalida, de Claude François et de Johnny Hallyday, je dois avouer que je suis un peu paumé dans les sonorités. Mais voilà, ce reste plutôt correct selon mes oreilles. Voilà.
Et franchement, si vous dites ça, c'est que c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa.
Voilà.
Moi aussi, je préfère Dalida.
Ah, merci. Dalida forever. Et puis, Denis Mola, attention, ça ne rigole plus. PDG d'une librairie familiale fondée en 1896 par un certain Albert Mola, situé depuis 1928 rue Porte-Dijon, qui a eu un destin tout à fait remarquable pour devenir l'actuelle plus grande librairie indépendante de France. Rien ne serait Mola sans le prestige des lieux. La dernière maison de Montesquieu quand même, ses montagnes de livres et ses employés toujours souriants à croire qu'ils sont sponsorisés par Colgate, Signal ou Sansodyne. Et un peu magicien sur les bords puisqu'ils sont capables de mettre seulement 10 secondes pour te trouver le livre que tu cherches, toi, depuis 4 heures dans les rayons. Et faut dire ce qui est, Mola à Bordeaux, c'est une référence, à tel point que tous les concurrents se cachent sous la table quand ils entendent parler de Mola. Car souvent, quand quelqu'un te dit... « Oh zut, je n'arrive pas à trouver ce livre, gna 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 gna. » Toi, tu es forcément obligé de répondre de façon tout à fait spontanée et rassurée. « Oh, mais va chez Mola, voyons !» Comme si c'était la librairie d'Ali Baba. Genre, tu veux un livre sur les chameaux, les bichons maltais, la tondeuse à gazon, va chez Mola. Mais à part tout cela, Mola, c'est quand même quelque chose de très particulier. C'est pour cette raison que je me dois d'en parler à son PDG tant que j'en ai encore l'occasion. À chaque fois que je franchis la porte de la librairie, je suis médusé, scotché, effaré, abasourdi, estomaqué et autres synonymes. Il n'y a plus aucun bruit, si l'on excepte ce soir évidemment. C'est une douceur tellement exquise que j'ai l'impression de quitter le monde incroyablement bruyant et violent qui m'entoure pour pénétrer dans celui des livres, de la culture, des petits poneys sur des arcs-en-ciel et de la poésie. Et ça, je kiffe à mort. C'est donc en partie pour cette raison que Mola, j'adore y rentrer avec les mains dans les poches et ressortir avec une brouette remplie de livres, alors que, étant très mauvais lecteur, je sais pertinemment que je mettrai 3 ans, voire une bonne décennie avant de les lire. Il n'empêche que quand je les lis, ça m'évite de rester des heures et des heures avec des magazines peu scrupuleux dont je tairai le nom. Papa et maman étant encore dans la salle. Voilà. Bref. Tout ça pour dire qu'en y réfléchissant bien, ma déception reste minime, tant l'émotion d'être ici avec vous tous est grande. Et rien que pour cela, et c'est déjà beaucoup, je ne peux que conclure ce dernier billet d'humeur de la saison en prononçant une brève, mais si jolie expression, merci pour ce moment.
Merci, merci. On a même placé Valoche à la fin, c'était sympa.
Oui.
C'était super. Laura, c'est le début de la fin.
Eh bien, il va falloir, effectivement. Je vais laisser à mes camarades la lourde tâche de faire la longue liste des remerciements. Je vais juste vous dire que Milchek, cette émission, c'était un gros pari au départ et qu'apparemment, pari gagné, en jugé par ce soir. Et qu'on est très content que des gens un petit peu fous comme nous aient suivis dans toutes les idées qu'on a eues cette année. On est très content de s'être rencontré cette équipe et d'avoir pu allier nos envies radiophoniques et culturelles pour vous proposer une émission tous les vendredis. Et vous m'avez entendu toute la semaine dire « J'ai pas préparé l'émission !» Bon, ben voilà, c'est bon, là, j'ai 2 mois de pause, je vous jure, je préparerai l'année prochaine. Mais voilà, donc on est content que ce projet ait tenu une saison et on espère que ça en fera d'autres.
Mais bien sûr.
Je te laisse faire les remerciements de voilà, mes suites, hein, tu gères maintenant.
Voilà, on en profite pour remercier tous les partenaires qui nous ont aidés à faire vivre l'émission cette année. Le cinéma UGC, la Rose School Barbet, le Rocher de Palmer et bien sûr, Mola. Et tout particulièrement Céline qui reçoit nos demandes d'interview en permanence et nous répond avec enthousiasme. Sans oublier Jean-Sébastien pour nous avoir aidés à tout mettre en place aujourd'hui et hier aussi.
Merci. Et on remercie aussi tous nos amis, nos familles, nos auditeurs tout simplement qui... Oui, je reste encore sur le numérique. Nous ont tweeté, nous ont fait des commentaires, nous ont donné des conseils, des messages tout au long de l'année. On les remercie énormément et on vous remercie aussi d'être là ce soir. Ça touche énormément d'avoir enfin un feedback, comme on dit, direct.
Merci d'ailleurs, merci, bravo.
Ouais, merci beaucoup.
C'était Milkshake, une émission proposée par Laura Cassouf et Camille Dupuis, également préparée par Johan Sed et Annabelle Gazzano. Un grand merci à Vincent Dupuis qui a réalisé cette émission et qui m'a pour la première fois de l'année déchargé de cette tâche. Merci beaucoup. Merci aussi à Marc-Alexandre Espio pour la gestion informatique de ce duplex sans qui rien n'aurait été possible, je tiens à le dire vraiment. Vraiment bravo, merci. Merci à Nicolas Grouchka qui normalement nous entend toujours depuis notre
entend.
Petite cabane perchée en haut du campus et qui a réceptionné le signal ce soir. Merci à Martin, je vois pas trop où il est, mais merci à Martin pour les photos et merci à Mehdi pour les photos qui doit être par là aussi. Qui est là. Il y a trop de monde, c'est pour ça. Merci à toute l'équipe de Radio Campus Bordeaux, Nicolas Loubert et Ghislain Fernand, co-directeur des programmes. Merci à celles et ceux qui ont participé ponctuellement au Milkshake cette année. Je pense aux contributeurs historiques du Reggae Sunscast, Elia Olivier, Lucas Serdic, mais aussi Mélissa Feuera, Shamim Chtibal et Sébastien Sayol qui est dans la salle. J'aimerais aussi citer notre ancien directeur d'antenne Daniel Buffet pour son soutien indéfectible. Bah, c'est vrai, pourquoi vous rigolez ? Premier auditeur. Dans un instant sur Radio Campus Bordeaux, la playlist de Ghislain Fernand, où je vous conseille de l'écouter, chers spectateurs de Mola. Puis à 21h, c'est Soul Feeling présenté par Manu Guérin. 22h, c'est Dread Talk, une émission placée sous le signe du reggae, proposée par Bruno Varela. Pour finir en musique, voici le titre qui nous a servi de générique toute l'année. Il s'agit de Moby et son titre Beautiful, issu de l'album Hotel, sorti en 2005. Et c'est officiel. On se retrouve le vendredi 11 septembre prochain pour une deuxième saison à décrypter et analyser la crème de la crème de l'actualité sociétale et culturelle sur l'antenne de Radio Campus Bordeaux. Merci aux auditeurs et merci au public d'être venus si nombreux ce soir et bonne soirée. Merci.
Look at us, we're beautiful. All the people.
Look at us, we're beautiful. Look at us, we're beautiful.